Mes parents m'ont appelé Jacques et quand j'étais enfant, j'avais dans ma chambre un petit tableau dépeignant l'apôtre Jacques en train de tirer à lui un filet rempli de poissons. Sous la gravure étaient écrites les nombreuses qualités de cet homme. Je suppose que par un phénomène d'osmose, elles auraient dû se transmettre à moi, mais ça n'a pas vraiment marché. L'apôtre Jacques était le grand frère de Jean. Nous le savons parce que chaque fois que les deux noms apparaissent ensemble, c'est presque toujours Jacques qui est nommé en premier. Ces deux hommes étaient les fils d'un certain Zébédée, pêcheur de son état sur le lac de Galilée. Ses affaires marchaient plutôt bien puisqu'il possédait sa propre barque et des ouvriers. Jean avait pour mère Salomé, une femme disciple qui, d'après Matthieu, contribuait financièrement au ministère de Jésus. Jean fut tout d'abord disciple de Jean-Baptiste, mais lorsque ce dernier a désigné Jésus comme le Messie, Jean et André l'ont immédiatement laissé pour suivre Jésus. Mais après être resté avec le Seigneur quelque temps, Jean est retourné à la pêcherie de son père. Plus tard, il est devenu un disciple permanent de Jésus et a reçu le titre d'apôtre. Avec Jacques, son frère, et Pierre, Jean faisait partie du cercle intime des 12 apôtres. Après l'ascension de Jésus, il est devenu l'un des chefs de l'Église de Jérusalem. En dépit de sa réputation d'apôtre de l'amour, Jean avait un tempérament vif, ce qui est confirmé par Jésus qui a donné à Jean et Jacques, son frère, le nom de « fils du tonnerre », nom auquel les deux frères se sont montrés à la hauteur. En effet, indignés parce qu'un village de Samarie refusait de recevoir Jésus et les disciples, et surestimant leur pouvoir apostolique, ils avaient demandé à Jésus « Seigneur, « veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres ?» Et Luc rapporte un incident où Jean a manifesté cette même attitude de supériorité, voire même de l'arrogance, quand il a dit au Seigneur « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom et nous lui avons dit de ne plus le faire parce qu'il ne te suit pas avec nous. » Bien qu'il se soit adouci avec le temps, Jean n'a pas perdu le feu de sa passion. Clément d'Alexandrie relate la manière audacieuse dont un jour il pénétra dans le camp d'une bande de voleurs et conduisit leur chef à la repentance et à la foi en Jésus. Comme Jean ne s'est jamais engagé dans un concours de popularité et n'essayait pas d'être élu apôtre de l'année dans sa première épître, il n'hésite pas à traiter de menteur, d'imposteur ou d'antichrist certains groupes de personnes. Polycarpe, son disciple, rapporte que Jean, le disciple du Seigneur, étant allé au bain à Éphèse, aperçut à l'intérieur Cérinthe, l'un des précurseurs du gnosticisme. Il bondit alors hors des termes sans s'être baigné en criant « Sauvons-nous !» de peur que les termes ne s'écroulent, car à l'intérieur se trouve Cérinthe, l'ennemi de la vérité. Selon Polycarpe et Irénée, c'est à Éphèse, capitale de la province de l'Asie, que Jean s'était retiré à l'époque de la guerre des Juifs contre Rome. Vers la fin du 1er siècle, sous le règne de l'empereur Domitien qui persécuta les chrétiens, Jean fut déporté sur l'île de Patmos, où il reçut la révélation de l'Apocalypse. Après l'assassinat de Domitien, qui était un véritable tyran, Jean est retourné à Éphèse, où il mourut autour de l'an 100. Un peu plus de 5 siècles plus tard, l'empereur byzantin Justinien fit construire la basilique Saint-Jean sur l'emplacement de sa tombe. Éphèse devint romaine en 133 avant Jésus-Christ. C'était la principale ville de l'ouest de l'Asie mineure, la Turquie actuelle, ainsi qu'un centre commercial, culturel et religieux important. Seconde seulement à Rome, cette cité valait le détour pour son climat agréable et sa culture cosmopolite. D'ailleurs, c'est à Éphèse que les hauts dignitaires de l'Empire aimaient venir goûter quelques repos. L'église d'Éphèse avait été fondée par l'apôtre Paul. Il était venu et avait prêché pendant 3 mois dans la synagogue, et après s'être fait vider suite à son témoignage pour Jésus-Christ, il enseigna pendant 2 ans dans une école qui appartenait à un certain Tyrannus. Suite à un incident causé par des exorcistes juifs, un réveil spirituel éclata dans la ville, mais c'est aussi à ce moment-là que les artisans d'Éphèse prirent conscience de l'impact qu'avaient les chrétiens sur leur ville et leur profession. Les fabricants de statuettes et d'idoles comprirent que la bonne nouvelle de Jésus constituait une menace pour le culte de la déesse Diane, aussi appelée Artémis, et surtout pour leur gagne-pain. Ils dressèrent les autorités contre Paul et toute la ville en fut bouleversée. Mais une église était née dans la ville d'Éphèse et c'est ainsi que la bonne nouvelle se répandit éventuellement dans la province d'Asie et que furent fondées les assemblées de Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, qui avec Éphèse sont mentionnées dans le livre de l'Apocalypse. L'église d'Éphèse fut fidèle au Seigneur, mais au fil des années, les premiers croyants partirent pour être avec le Seigneur, et c'était leurs enfants et petits-enfants qui remplissaient les pieux. À la fin du 1er siècle, l'enthousiasme et la fraîcheur des premiers jours de la foi en Jésus-Christ s'étaient flétris au point où, au travers de Jean, le Seigneur a dit à l'église d'Éphèse « J'ai un reproche à te faire, tu as abandonné l'amour que tu avais au début. » On peut être sûr que l'apôtre était conscient de ce relâchement spirituel et en a tenu compte quand il a rédigé sa première épître. Pour ce qui est de la date de rédaction des 3 épîtres de Jean, la tradition la fixe entre les années 85 et 95 de notre ère. On sait que l'apôtre était alors un homme âgé, beaucoup plus que la majorité de ses lecteurs qu'il appelle au moins 9 fois « mes petits-enfants ». Bien qu'on ne sache pas grand-chose des destinataires de ces lettres, on peut quand même dire qu'ils étaient pour la plupart des non-juifs, parce qu'à l'exception de la mention de Caïn, Jean ne fait pas référence à l'Ancien Testament, si ce n'est peut-être la mise en garde donnée en conclusion contre l'idolâtrie. Cependant, cette exhortation peut tout aussi bien s'appliquer à des non-juifs, car dans les milieux païens, d'où ils étaient issus, les fausses divinités étaient légion et aucun croyant n'est à l'abri de retomber dans de vieux travers. La raison première de cette lettre pastorale écrite par Jean est le danger que posait l'apparition d'hérétiques dans les églises chrétiennes. Les croyants étaient troublés par ceux qui avaient quitté leurs assemblées et qui enseignaient une soi-disant nouvelle vérité. Alors l'apôtre écrit pour leur rappeler que ce sont ceux qui ont placé leur confiance dans le Fils de Dieu qui ont la vie éternelle. Mais comment être sûr de croire au vrai Fils de Dieu et comment savoir si l'on a vraiment la foi? Jean donne 3 tests fondamentaux qui répondent à ces questions qui permettent à tout un chacun de se situer par rapport à Dieu et donc de savoir qui a la vraie foi dans le vrai Fils de Dieu pour avoir la vraie vie. Ces 3 tests tournent autour de 3 thèmes. Premièrement, le péché et l'obéissance. Deuxièmement, l'amour et la haine. Et enfin, l'erreur et la vérité. Selon qu'on les réussit ou pas, on est de Dieu ou pas, on le connaît ou pas, on est né de lui ou pas, on a la vie ou on est mort, on marche dans les ténèbres ou dans la lumière, on est enfant de Dieu ou enfant du diable. Ces trois thèmes apparaissent trois fois dans l'épître. Cette première lettre de Jean a été appelée le Sanctum Sanctorum, c'est-à-dire le Saint des Saints du Nouveau Testament. Il fait traverser aux croyants le pas de la porte du royaume des cieux et l'emmène dans le sein du Père où il est en communion avec lui. Alors que les épîtres de Paul sont avant tout pastorales, la première épître de Jean nous introduit dans l'intimité du Père et parle de la famille de Dieu. Tous ses membres ont accès à une position où ils sont comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui toutes sont en Christ, écrit l'apôtre Paul. Ce privilège est accordé à tous ceux qui placent leur confiance en Jésus. Leur foi les introduit dans la famille de Dieu où ils ont un lien affectif avec le Père et les uns avec les autres. Cette relation peut être interrompue par le péché, mais, écrit l'apôtre Jean, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Je commence à lire le chapitre premier de l'épître de Jean. « Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie. » Verset 1. Jean ne commence pas sa lettre par une introduction en bonne et due forme, mais démarre sur les chapeaux de roue. Le verbe traduit le mot grec « logos » qui a donné « logique » en français. D'autres versions ont « message » ou « parole ». Quand Jean appelle Jésus le « logos de Dieu », il veut dire qu'il est l'expression pleine et entière de la divinité et il porte en lui le message de la vie. Jésus est la personnification de la vie dans son sens absolu et le plus fort. Jean écrit « nous » à la première personne du pluriel. La Bible du Semeur dit « Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. » Ce « nous » qui est sans cesse répété englobe tous les apôtres qui ont personnellement connu Jésus et qui ont marché avec lui pendant 3 ans. Jean les associe à cette lettre. L'expression « commencement » apparaît aussi dans la Genèse, où la première phrase est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». C'est une référence aux 6 jours de la création. Au 19e siècle, la science situait les débuts du monde à moins de 100 millions d'années. Au XXe siècle, les scientifiques ont décidé que le taux de désintégration des matériaux radioactifs a toujours été le même et s'en sont servis pour estimer l'âge de la Terre entre 4 et 5 milliards d'années. C'est ce que j'ai appris à l'école. De toute façon, la Genèse n'a pas pour but de fixer la date de la création, mais d'informer les êtres humains que Dieu a tout créé. Tant que quelqu'un n'accepte pas ce postulat, il n'est pas prêt à continuer la lecture des Écritures parce qu'elle s'appuie sur cette fondation. Quant à la création de l'homme, si on utilise la chronologie de la Genèse, elle remonte à moins de 8000 ans. Le mot « commencement » apparaît aussi dans le premier verset de l'évangile de Jean où il est dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. » Ensuite, Jean décrit la création du monde et parlant de Jésus, il dit « Tout a été créé par lui ». Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Fin de citation. On peut remonter aussi loin avant que l'univers soit, Jésus est toujours présent car il est l'ancien des jours. De cet éternel infini, Jésus est sorti pour devenir homme. Jean écrit, le Verbe s'est fait chair. Ici, dans l'Épître, Jean dit, nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Il parle du moment où la bonne nouvelle de Jésus a commencé à être annoncée par les apôtres. Ce message qui concerne la rédemption et le salut de l'homme n'a pas changé depuis la Pentecôte. La bonne nouvelle est la même aujourd'hui qu'elle était au commencement. Elle annonce la nécessité de se repentir, de placer sa foi en Jésus et assure le pécheur qu'il est pardonné par grâce et réconcilié avec Dieu. La connaissance du Christ n'est pas secrète et réservée à une élite intellectuelle. Jean était un pécheur sans instruction et il a connu l'homme Jésus qui arpentait les chemins de Palestine. Si dès la première phrase, Jean insiste sur le témoignage des sens, l'ouïe, la vue, l'observation attentive et le toucher, c'est d'une part pour dire qu'il annonce la vérité, ce qu'il a vécu et il sait de quoi il parle, et d'autre part, Jean décoche ses premières flèches contre les hérésies qu'il voulait combattre. Les antichrists, comme il les appelle, apportaient de nouvelles idées et non pas celles qui étaient dès le commencement, qui dataient du début de la prédication des apôtres. Dès les premières lignes de l'Épître, Jean se présente donc comme un témoin oculaire de la manifestation de celui qui est la vie et réfute d'entrée les arguments de ceux qui niaient l'humanité de Jésus. Le message de l'apôtre est solidement établi sur une réalité historique, la personne du Christ que beaucoup de gens ont vu, entendu et touché. Jean dit qu'il a entendu et vu le Seigneur. Le temps de ces deux verbes indique une action dans le passé qui a une incidence sur le présent. Jean a vu le Seigneur à l'œuvre. Il a entendu les paraboles de Jésus, ses sermons, les instructions qu'il donnait aux apôtres en privé et ce qu'il répondait à ses ennemis et à ceux qui venaient à lui chercher de l'aide. Il n'a pas reçu la vision d'une image fantomatique et il ne parle pas d'opinion et d'ouïe dire, car pendant 3 ans, il a vécu avec l'homme divin en chair et en os. En tant que témoins oculaires intimes et constants du ministère terrestre de Jésus, les disciples ont reçu la preuve formelle qu'il était Dieu fait homme. Dans son évangile, Jean écrit « Celui qui est le Logos, la parole, est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » Ici, dans l'Épître, Jean dit qu'il a contemplé le Seigneur. Le verbe utilisé décrit une observation attentive, un regard prolongé et scrutateur. Au début de son évangile, Jean écrit « Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. » Pendant la marche au désert et selon une habitude bien rodée, les Israélites se sont révoltés contre Dieu et Moïse. Alors l'Éternel a fait venir des serpents venimeux qui ont mordu les rebelles et ils en mouraient. Finalement, le peuple s'est repenti et Moïse a confectionné l'image d'un serpent en alliage de cuivre qu'il a monté sur une perche et tous ceux qui avaient été mordus et qui la regardaient attentivement étaient miraculeusement guéris. Jean établit un lien entre ce serpent et le Christ, disant que dorénavant, nous devons regarder à Jésus par la foi afin d'obtenir le salut. Ensuite, il faut continuer à garder les yeux sur le Seigneur afin de croître dans la connaissance de Dieu. C'est le but des épîtres du Nouveau Testament. Quand Jean dit à ses lecteurs qu'il a touché de ses mains la parole de vie, le mot grec traduit par « toucher » signifie « tâter, tâtonner ». Après sa résurrection, Jésus a utilisé ce mot. Un jour, il est soudainement apparu au milieu de ses disciples qui furent terrorisés. Pour les rassurer, il leur a dit « Regardez mes mains et mes pieds et reconnaissez que c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, car un esprit n'a ni chair ni os, or vous voyez bien que j'en ai. » Sur ces entrefaites arrive Thomas qui déclare « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas !» 8 jours plus tard, Jésus a dit à Thomas « Place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois !» Les apôtres ont accompagné Jésus pendant 3 ans. Ils l'ont touché, ils l'ont vu, ils l'ont observé et entendu parler, un privilège que nous n'avons pas eu. Cependant, nous pouvons quand même voir le Seigneur avec les yeux de la foi. Jésus a dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu !» Et l'apôtre Pierre écrit « Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez !» Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. »